Alors, on va continuer notre étude de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Et on va étudier aujourd'hui le paragraphe 3 du chapitre 3. Alors, c'est pas vraiment long, mais c'est un petit chapitre, un petit paragraphe, mais qui dit des très, très, très grandes vérités et très profondes vérités. Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, si on se souvient, on a commencé à étudier un petit peu. On a fait le paragraphe 1 et le paragraphe 2. Dans le paragraphe 1 et dans le paragraphe 2 du chapitre 3, de quoi on traitait? On traitait du décret général de Dieu. Autrement dit, je vous rappelle que Dieu dit que de toute éternité, il avait décidé tout ce qui était pour arriver sur la terre, à tous les niveaux, non seulement sur la terre, mais dans l'univers, dans les vies des nations, dans la vie des individus, dans la vie de tous, et tout était décrété de Dieu depuis toute éternité, incluant le péché, mais sans qu'il n'en soit l'auteur. J'avoue que c'est des choses un petit peu difficiles à saisir, c'est Dieu qui l'a décrété, puis, mais c'est l'homme qui est responsable de son péché. Alors, les chapitres 1 et 2, c'était le fait que Dieu, de toute éternité, a décidé de tout ce qui était pour arriver sur la terre, et dans l'univers, c'est inimaginable. Il faut penser à tout ce qui peut arriver, là, et il l'avait décidé. Maintenant, là, on passe du général, le décret général de Dieu. Le décret, là, dans les Écritures, là, c'est une des doctrines les plus profondes qu'on peut imaginer. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le paragraphe 3, pas le paragraphe 3, mais l'article 3 de notre confession de foi, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis, il y a eu les Écritures. Et après ça, tout de suite, là, ils nous mettent ça, avant même qu'on commence à parler du salut, de Jésus, de tout ça, ils nous montrent que Dieu a décidé toutes choses de toute éternité, concernant toutes choses, mais concernant aussi, qu'on va voir aujourd'hui, le décret spécifique de Dieu, et qui est la prédestination à la vie. Dieu, de toute éternité, a décidé lesquels, d'entre tous les hommes de toutes les époques qui viendraient sur cette terre, recevraient la grâce de son salut. Ça, là, c'est difficile à saisir parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prêchent que Dieu a sauvé tous les hommes. Ce n'est pas ce que la confession de foi nous enseigne. Dieu a sauvé uniquement les élus. Et à quelque part, c'est vrai que ça soulève des difficultés d'harmonisation de différents passages des Écritures qui semblent vouloir s'en aller dans le sens de l'universalité. Mais on va voir que si on les examine avec attention, ce n'est pas le cas. C'est une vérité qui a été défendue par toute une multitude de générations de calvinistes depuis, depuis le début. Quelqu'un pourrait démontrer historiquement qu'il y a toujours eu des gens qui ont cru aux doctrines de la grâce durant toutes les époques amenées jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a de moins en moins, pour la raison qu'on est rendu à une époque où les gens aiment mieux entendre des choses qui leur font plaisir aux oreilles. Ça ne fait pas plaisir aux oreilles, ça. Alors, on avait vu que le décret général comprenait toutes les choses, mais que là, on rentre dans le décret spécifique. On rentre dans la prédestination à la vie ou l'élection. C'est deux mots qui sont à peu près l'équivalent. Donc, l'élection, c'est une doctrine extrêmement importante à saisir, à comprendre, à accepter et à prêcher. Parce que si on ne le fait pas, on est en train déjà de glisser vers... Et donc, les chapitres 3, le paragraphe 3, c'est-à-dire, va s'occuper de l'élection, sa sélectivité. Autrement dit, l'idée principale du paragraphe 3, c'est que Dieu a choisi des hommes, des femmes et même des anges pour leur accorder la vie éternelle. Alors, quelque part, c'est important. Après ça, le paragraphe 4, j'ai pensé que valait mieux qu'on prenne paragraphe par paragraphe puis de le vider que d'essayer de vous lire les 3, 4, 5, 6, 7 d'un coup pour finir le chapitre 3. Parce qu'il y a trop de matériel là-dedans pour faire ça en une shot, comme on dit. Faire ça en un... Juste le chapitre 3 mérite... Le chapitre 3 et le paragraphe 3 méritent une étude. Et même, je dirais qu'une étude, ce ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas aller en profondeur, mais quand même. Donc, le paragraphe 4 va nous parler de la spécificité. Qui le Seigneur a sauvé au cours des histoires? Après ça, dans le paragraphe 5, c'est la cause. Et dans le paragraphe 6, les moyens que Dieu utilise pour amener les âmes à Jésus-Christ. Et le septième, c'est un conseil qui nous dit la nécessité d'aborder ce sujet-là avec sagesse et avec un grand soin. On ne peut pas parler de ça n'importe comment et faire dire au Seigneur des choses qu'il ne dit pas. Alors, c'est ça que le paragraphe 7 nous dit. Mais aujourd'hui, on va faire juste... Là, ce que je vous ai dit, c'est les quatre paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 avec les grandes lignes. Maintenant, aujourd'hui, on va faire juste le paragraphe 3. Puis je trouve qu'on en a déjà pas mal. Juste paragraphe 3. Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme on a fait avec les autres leçons. On va prendre le paragraphe 3, puis on va y aller... petite phrase par petit bout de phrase pour finir par comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, si on prend, là, je vais vous le lire au complet, et après qu'on va avoir lu le paragraphe 3 complet, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de prendre petit bout de phrase par petit bout de phrase et expliquer, pour qu'à la fin, on saisisse ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, paragraphe 3 du chapitre 3, de notre confession de foi. Ça dit, par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Il y a deux choses qui sont glorieuses là-dedans. Sa glorieuse grâce, donc ceux à qui Dieu permet, comme nous, on professe être des croyants, donc on a reçu la grâce de Dieu. Donc, sa grâce est glorieuse, surtout avec ce qu'on a partagé ce matin. Et plus on médite là-dessus, plus on se rend compte que oui, c'est glorieux, la grâce de Dieu. Mais quand ça dit, dans la dernière partie, d'autres, là, il ne parle pas de ceux qui sont sauvés, il parle de ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne seront pas. D'autres sont laissés pour agir selon leur péché. Dieu les laisse aller dans leur péché, qui mène à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Donc, à quelque part, le fait que certaines personnes ne sont pas sauvées et qu'ils vont recevoir la juste rétribution qui leur est due à cause de leur péché, ça va manifester la glorieuse justice de Dieu. Et ça, quelque part, quand on parle de la glorieuse grâce, tout le monde veut se mettre sur le côté de la grâce, mais personne ne veut se mettre sur le côté de la rétribution, donc le fait que des gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu vont se ramasser en enfer un jour. Alors, si vous regardez dans votre petite confession de foi, à chaque fois que vous allez voir un petit numéro, comme ça dit par Jésus-Christ, vous avez le chiffre 7. À la louange de sa glorieuse grâce, vous avez le chiffre 8. D'autres sont laissés. Alors, c'est important quand vous faites une étude que vous voulez comprendre la confession de foi, de prendre ces petits versets-là et qui veulent donner des versets, autrement dit, pour prouver la vérité de ce qui est dit. C'est important d'aller les lire. Qui d'entre nous a pris la confession de foi puis a pris la peine d'aller voir les versets? Pas beaucoup, j'avoue. On est paresseux. C'est ça le problème. Et si on prenait le temps de faire ces choses-là, les doctrines seraient beaucoup plus enracinées dans notre cœur, dans notre esprit, et notre compréhension serait énormément élargie. On n'ira pas les voir nécessairement tous ce matin, mais on va expliquer le paragraphe petit morceau par petit morceau. On va analyser ça. Ça dit « par le décret de Dieu ». Ça, c'est la première phrase qui est mentionnée. Voyez-vous, si on s'en va dans 1 Timothée, au chapitre 5, au verset 21, Paul dit à Timothée « Je te conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et les anges élus. » Donc, à quelque part, le verset vient nous rappeler que oui, il y a des hommes qui ont été élus, mais il y a des anges aussi qui ont été élus pour que eux, ce soit des anges qui n'ont pas chuté comme Satan et suivi avec Satan. D'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire avec partialité. La première observation à faire ici est le fait que la prédestination ou la préordination est un décret divin, par le décret de Dieu. Dieu a décidé qu'il y avait un certain nombre d'hommes et de femmes au cours de l'histoire qui recevraient son salut, puis il a décidé que les autres, ils les laisseraient aller dans leur péché et qu'ils se rendraient par eux-mêmes responsables de leur propre condamnation. Et ça manifeste deux choses. La grâce manifeste sa glorieuse grâce et l'autre manifeste sa glorieuse justice. Alors, par le décret de Dieu. Alors, la première observation à faire, c'est que le fait que la prédestination ou la préordination est un décret divin, donc une décision divine prise dans l'éternité. C'est drôle de penser à ça. Hein? On parlait ce matin de famille. Moi, dans ma famille, on était quatre, j'étais le mouton noir. Pour moi, c'est ça que j'étais. Et le Seigneur m'a sauvé. Puis les trois autres membres de ma famille, il ne leur a pas accordé sa grâce. Pourquoi? Je ne sais pas. La Bible dit que c'est Dieu qui a choisi. Moi, je n'ai pas à critiquer ça. Alors, on doit comprendre que c'est une décision de Dieu que certains hommes, femmes, enfants soient ordonnés à la vie éternelle, alors que d'autres soient laissés dans leur péché et subissent les conséquences qui s'ensuivent. Ces deux choses font partie du plan de Dieu pour la destinée éternelle des hommes et des anges. Tout de suite là, si on avait des arméniens en salle, ou je dirais ça devant des grosses églises modernes aujourd'hui, je pense que je m'attirerais des tomates et des œufs pourris. C'est ça que je m'attirerais. Mais c'est pas à cause que ça m'attirerait ça qu'il faut que j'arrête de le prêcher. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, les deux destinées ne sont cependant pas exécutées de la même façon comme nous allons le démontrer. Le fait que Dieu a élu et prédestiné un peuple pour jouir de la vie éternelle est affirmé de façon explicite et implicite dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Explicite, ça veut dire que le verset le dit d'une façon tellement claire que je ne peux pas m'obstiner. D'autres, c'est que des versets le disent, mais c'est implicite, ça veut dire qu'on arrive à la même conclusion, mais par raisonnement. Implicite et explicite, les deux. Voyez-vous dans Jean 6, 64. « Mais il y en a parmi vous, c'est Jésus qui parle, mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. » Il savait. Il savait, quand il est venu sur la terre, il savait lesquels qui étaient ses élus, puis il savait les celles que peu importe ce qu'il leur dirait, ça va passer comme l'eau sur le dos d'un canard. Jean 10, versets 25 et 26. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est assez clair. Là, on parlait de façon explicite. Moi, je trouve que ça en est un verset explicite. Il dit, « Si tu ne crois pas, c'est parce que tu n'es pas une de mes brebis que j'ai choisi dans l'éternité. » Bon, plus compliqué que ça. Jean 17, verset 9. C'est la prière sacerdotale, quand le Seigneur dit. Il parle de ses élus. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5. Sachant, frères bien-aimés, votre élection, car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit-Saint, et d'une abondante efficacité, selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. Il dit, frère bien-aimé, vous savez votre élection. Élu, là, ici, ça ne veut pas dire le même sens qu'on vient d'avoir une élection. Ça ne vient pas dire que, quelque part, on a voté, puis que... Élu, ça veut dire que Dieu t'aimait de toute éternité et a décidé de ta destinée éternelle avant même que tu viennes au monde. Et non seulement de la tienne, mais de celle de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants, de toutes les époques jusqu'à son retour. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Sachant qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs, par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Quand on se demande pourquoi, tout à l'heure je vous disais, j'étais le mouton noir, pourquoi le Seigneur m'a sauvé moi? Je n'ai pas de réponse à ça. parce que ça dit que son choix est basé sur le bon plaisir de sa volonté. Et qui suis-je, moi, pour questionner les décisions divines? Si, il a décidé ça, point final. Si, je dois mettre un point, puis je dois respecter ça. Romains 11, versets 5 et 6. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ces temps, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Autrement dit, le Seigneur nous le fait, Éphésiens 2, 8, où on, tout est un verset qu'on connaît. Vous avez été sauvés par la grâce. On est sauvés par la grâce. Quelque chose qu'on ne méritait pas, qu'il nous a donné. Comme ça, là. Quelque part, il y a de quoi être heureux. Parce que si on comprenait qu'est-ce que ça veut dire de vivre éternellement dans le lac de feu pour l'éternité, puis qu'on comprenait vraiment que le Seigneur nous a retirés de cela et a mis notre punition sur Jésus-Christ, on danserait de joie, si on le savait vraiment. Parce qu'on a comme des petites notions, l'enfer, c'est ici, c'est ça, mais c'est bien plus que ça. Si tu aurais été poigné pour vivre là l'éternité, tu ne l'aurais pas trouvé drôle, je t'en passe un papier. Alors, le fait que le Seigneur nous a est délivré de là, c'est... Alors, la deuxième phrase qui nous dit, après le décret de Dieu, je pense qu'on vient de comprendre ce que c'est le décret de Dieu, c'est lui qui a choisi les hommes, les femmes et les anges qui recevraient la vie éternelle. Après ça, ça dit, pour la manifestation de sa gloire. La manifestation, ça veut dire que tu prends quelque chose puis tu le rends manifeste, ça veut dire que tu le rends évident. Une manifestation, ça rend les choses évidentes par rapport à Dieu. Pour la manifestation de sa gloire. Et on a parlé tout à l'heure dans le verset qu'il y a deux manifestations dans le fait qu'il ait sauvé quelques-uns et qu'il n'a pas sauvé les autres. Un, c'est la grâce, sa glorieuse grâce, et l'autre, ceux qui laissent aller dans leur péché, qui vont subir leur châtiment, sa glorieuse justice. Le fait que Dieu fait ça de cette façon-là, ça manifeste deux attributs de sa personne. Le fait qu'il est un Dieu gracieux, si on est ici, c'est parce qu'on est... On a reçu la grâce de Dieu. Et l'autre aspect, c'est que ceux qui ne l'ont pas connu, eux, ils vont aller en enfer pour l'éternité. Et quelque part, ça va manifester sa justice, parce qu'on a tous soif de justice. On a parlé ce matin de ce qui se passe au Congo actuellement, là. Moi, je ne suis pas capable de m'imaginer, d'accepter que les hommes qui font de pareilles choses ne subiront pas un châtiment par le Seigneur. Si ce n'est pas sur cette terre, ça va être l'autre bord. Mais ce qu'ils ont fait, ils vont payer pour. Ils vont payer pour. À quelque part, c'est ça la justice, c'est que Dieu va faire justice à quelque part à tous les êtres humains qui ont péché. Il n'y a pas un péché qu'ils ne paieront pas. Ceux qui ont fait dans leur pensée, ceux qui ont fait dans leurs paroles, et on sait qu'on pêche énormément par nos paroles, ceux qui ont fait par leurs actions, et ceux qui ont fait par leurs omissions, c'est-à-dire ne pas accomplir ce que Dieu nous commande de faire. C'est un péché aussi grave qu'un péché de commission. Alors, Dieu manifeste sa gloire en montrant sa grâce à certains et en exerçant sa justice sur les autres. Bien entendu, ça manifeste deux facettes très différentes de sa personne. L'une qui est sa grâce glorieuse, l'autre qui est sa justice glorieuse. Des réflexions qu'on pourrait se faire sur les choix de Dieu. On pourrait dire, Dieu aurait pu faire trois choses avec les êtres humains qui sont tombés dans le péché, qui sont devenus des pécheurs. Il aurait pu sauver tous les êtres humains et ainsi démontrer sa grâce glorieuse. Il aurait pu aussi n'en sauver aucun et démontrer uniquement sa justice glorieuse. Il aurait pu démontrer à la fois sa grâce glorieuse et sa justice glorieuse. Nous savons que le Seigneur a décidé ce troisième choix. Les deux. Il a décidé d'en sauver, puis il a décidé d'en laisser aller d'autres. Donc, les deux aspects de sa personne, sa grâce glorieuse et sa justice glorieuse, vont toutes les deux être manifestés. On continue la phrase, on y va par petits bouts. Certains parmi les hommes, c'est en train de dire pas tous les hommes, certains parmi les hommes, et les femmes et les enfants, bien entendu. Certains parmi les hommes et les anges. Donc, quand Satan est tombé, on dit dans les Écritures, dans l'Apocalypse, qu'un tiers a le suivi. Donc, sur l'ensemble de tous les êtres angéliques que Dieu a créés, il y en a un tiers qui ont suivi Satan. Les autres n'ont pas suivi Satan. C'est ceux qui avaient reçu la vie, la prédestination, la vie éternelle. Eux aussi étaient élus. Alors, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. Le Seigneur a fait grâce aux pécheurs qui sont sauvés. Il a fait grâce aussi aux anges qui auraient pu suivre Satan, qui, par sa grâce, n'ont pas tombé. C'est extraordinaire de penser à ça. Notre confession de foi décrit d'abord la prédestination à la vie éternelle pour les hommes que Dieu a choisis. Moi, c'est un verset que j'aime beaucoup, Actes 13, 48. Je trouve que c'est un verset d'une grande richesse, d'une grande profondeur. Les gentils, dans les Écritures, quand on parle des gentils, on parle des païens. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et c'est la deuxième partie que j'aime beaucoup. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Si on croit, on est ici ce matin, c'est parce qu'on était destinés à la vie éternelle et on a cru parce qu'il a voulu qu'on croie. Il nous a donné la foi. On va regarder un petit peu aussi Romains 8, versets 29 et 30. Dans les Écritures, si vous étudiez la théologie, vous allez, dans les livres de théologie, vous allez sûrement tomber sur cette partie-là. En anglais, ils appellent ça « the golden chain of redemption », la chaîne d'or de la rédemption. Parce que toute l'explication du salut dans chacune de ces facettes est expliquée dans le Romains 8, versets 29 et 30. Voyez-vous, la chaîne d'or de la rédemption, ou du salut. Romains 8, versets 29 et 30. On va remarquer qu'il y a... Pourquoi qu'il l'appelle « the golden chain » Parce que quand on le sait que une chaîne, ça a des maillons. Ici, il y a cinq maillons. Et c'est les cinq aspects de notre salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, premier maillon, il t'a connu d'avance dans l'éternité. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Voyez-vous, il nous a prédestinés, pas pour qu'on reste des pécheurs comme on était, pour qu'on continue à faire les niaiseries qu'on faisait. Il nous a prédestinés pour qu'on soit conformes à l'image de Jésus-Christ. Et le contrat, mes amis, là, est d'une telle hauteur qu'on n'a pas imaginé, on ne peut pas imaginer. Le Seigneur nous a prédestinés pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Le contrat est la barre est haute, comme on dit. Afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, deuxième maillon. Donc, premier maillon connu d'avance, deuxième maillon prédestiné. Il les a aussi appelés. L'appel efficace, Dieu appelle. C'est drôle, on va mettre 1000 personnes dans une salle, on va faire un sermon sur le salut, puis peut-être qu'il va y en avoir 3 qui vont comprendre, qui vont avoir l'esprit ouvert, ils vont comprendre, ils vont venir au Seigneur. Ils vont comprendre leur perdition, ils vont comprendre qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour eux. Les 996 autres, là, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vraiment entendu avec leurs oreilles spirituelles. Alors, il les a aussi appelés, troisième maillon. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quatrième maillon. Qu'est-ce que c'est de justifier? La justification, ça veut dire qu'on est déclaré juste par Dieu lui-même. Dieu déclare quelqu'un qui est sauvé et c'est une déclaration solennelle irréversible, un peu comme aujourd'hui si vous iriez en loi, quand vous êtes rendu à la Cour suprême, puis la Cour suprême a tombé son marteau, et tu ne peux pas revenir, il n'a plus de, tu ne peux pas aller au-dessus, c'est final. La déclaration de Dieu qui t'a justifié. Pourquoi Dieu peut dire de chacun d'entre vous que vous êtes des justes? Parce qu'un juste, c'est quelqu'un que les péchés qu'il a faits sont... ou lui les a payés, ou quelqu'un d'autre les a payés à sa place, et les exigences que Dieu avait pour la parfaite obéissance à la loi, il fallait que tu l'accomplisses, ou encore une fois, si ce n'est pas toi qui l'accomplis, il fallait que ce soit Jésus qui l'accomplit. Alors Jésus a accompli les deux aspects. Il a subi le châtiment de tes péchés, c'est pour ça que Dieu peut dire que tu es juste, c'est comme à ses yeux, c'est comme si tu n'avais pas fait de péché. Et non seulement ça, mais si ça avait été juste ça, tu n'aurais pas pu aller au ciel. Il fallait que tu aies accompli à la perfection la loi de Dieu sans manquer une seule fois de toute ta vie. Et qui a fait ça? Personne. Juste Jésus-Christ. Alors, les deux aspects du salut, pourquoi on est juste, c'est Jésus-Christ qui a subi ton châtiment, Jésus-Christ qui a accompli à ta place ce que Dieu exigeait de toi. Donc, il les a appelés. Il les a aussi justifiés, ce qu'on vient de voir. Pourquoi Dieu peut dire de moi, Marcel Longchamp, que je suis juste? Si quelqu'un regarde ma vie passée, hein? Lui, juste? Pas sérieux, là? T'es pas sérieux, là? Je suis juste pas à cause de ce que j'ai fait. Je suis juste à cause de la foi que j'ai en la personne, glorieuse personne de Jésus, le Christ qui a subi mon châtiment à ma place volontairement. On n'a aucune idée jusqu'à quel point c'est grand, ça. Et après ça, il dit, et ceux qui l'ont justifié, remarquez les temps de verbe, la beauté de ce passage-là, Romains 8, 29 et 30, c'est que tous les verbes sont au passé. Il dit, il les a justifiés, et ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a justifiés, ils sont maintenant déjà en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est déjà au ciel. Et on est en lui. Donc, dans un certain sens, on est déjà glorifié. Parce que c'est juste une question de temps qu'on décède pour qu'on soit avec lui. C'est un passage tellement merveilleux à étudier, ce passage-là. On pourra passer des heures, des semaines, même des mois. C'est un passage d'une grande richesse. Alors, notre confession de foi continue en nous disant, d'autres, donc là on vient de régler le sort des personnes qui sont sauvées, qui vont aller au ciel pour l'éternité. Ils vont vivre avec Jésus dans le ciel, dans la paix, dans l'harmonie, plus de péché, plus de douleur, plus rien. Après ça, il dit d'autres, bien entendu, qui est en train de parler de qui? De ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. D'autres sont laissés pour agir selon leur péché qui mène à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Là, il y en a, si vous étudiez la théologie de moindrement, vous allez voir qu'il y en a qui ont dit, ceux qu'on appelle les hyper-calvinistes, ils ont dit, Dieu a pris la décision de sauver des hommes, des femmes au cours de l'histoire, mais il a aussi décidé d'avance, c'est comme si ta destinée éternelle, c'est Dieu qui l'a choisi d'avance sans que ta participation soit là. On appelle ça l'hyper-calvinisme. Alors, ici, ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu, le décret à la vie éternelle et le décret de laisser l'autre dans leur péché n'est pas équivalent. On va voir, on va comprendre un petit peu. On parle d'un décret actif, on parle d'un décret passif. Un décret actif, ça veut dire que Dieu a regardé dans l'histoire tous les hommes et il a décidé, lui, elle, son enfant, il a décidé tous ceux qui recevraient la vie éternelle. Les autres, c'est un décret passif parce qu'il n'a pas décidé qu'il irait en enfer. Il a décidé de les laisser aller. C'est pas la même chose. Alors, on va regarder quelques passages des Écritures qui nous parlent de la réprobation. La réprobation, en théologie, c'est tout simplement le fait que Dieu a décidé de la destinée éternelle des hommes, soit en les sauvant ou soit en les laissant aller. On va en regarder plusieurs versets. Romains, chapitre 9, verset 22. Ça, c'est des... Romains 9, là, c'est à peu près le passage des Écritures où il y a eu le plus d'ostination en théologie. C'est un chapitre difficile, un chapitre pas difficile si tu es ouvert à ce que Dieu dit puis tu acceptes ce qu'il dit sans vouloir dire. Ben, ça ne se peut pas qu'il dise ça. Romains 9, 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition? Ça parle de réprobation. Réprobation, ça veut dire Dieu a décidé qu'il te laisse aller à ton péché, donc il ne te sauve pas. Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Apocalypse 17, verset 8. Ça, c'est, on effleure le sujet. Là. C'est si on veut rentrer dans la question de la grâce souveraine et la question de la réprobation, on pourrait en avoir longtemps étudié ça. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, bien qu'elle soit. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il y a des gens, les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie, et eux ne recevront pas la grâce de Dieu, le salut. Matthieu, chapitre 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela a été ainsi parce que tu l'as trouvé bon. » Il est en train de dire qu'il y a des hommes qui peuvent être très intelligents sur la terre, mais ils ne comprendront jamais le salut. Puis il dit que Dieu dit, Jésus loue son Père parce que tu les as révélés aux enfants. Il les a révélés à nous. Alors que des grands intellectuels de ce monde peuvent lire la Bible et rien comprendre. Romains 9, versets 17 à 21. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? » Regardez ce que Paul répond. Le monde, autrement dit, ça, l'argument est à peu près le suivant. « Oui, mais si Dieu a tout décidé d'avance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Oui, c'est à peu près ça. Puis, vous voyez, regardez, Paul n'essaie pas d'expliquer le grand mystère de la rédemption et de la... Et regardez ce qu'il dit dans le verset 20. « Mais plutôt, ô homme, qui es-tu? » Toi qui contestes avec Dieu. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages raisonnables et un autre pour des usages vulgaires? Alors, quand on reçoit ça comme nouvelle, les Écritures nous enseignent que Dieu, on se dit, mais il n'est pas juste. Il y en a qui tombent dans ce panneau-là. Et là, il amène Dieu à la barre. C'est comme si, voilà, Seigneur, je ne marche pas de même, là. Ça se peut pas, ce que tu dis là. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Et Paul, au lieu de dire, je vais t'expliquer pourquoi c'est de même. Il dit, quittez, toi, un pécheur pour venir appeler Dieu à la barre de s'expliquer. Il n'y a pas de compte à te rendre. C'est aussi simple que ça. 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle et c'est à cela qu'ils ont été destinés. C'est fort ces versets-là. C'est un sujet passionnant à étudier, hein? Grâce, rédemption, en opposition avec la réprobation. Alors, ces passages établissent de façon indiscutable que même les non-élus font partie du décret que Dieu prédestine certains hommes à la destruction éternelle. Mais cela veut-il dire que les non-élus sont des victimes innocentes de la volonté divine et des simples pions entre les mains d'un Dieu cruel et sans cœur? Bien sûr que non. Alors, comment pouvons-nous concilier la conclusion de ces passages sans que Dieu viole la volonté des non-élus? Autrement dit, quand quelqu'un s'en va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu a décidé qu'il s'en va en enfer, c'est parce qu'il continue à faire son péché que Dieu le laisse aller. Ce n'est pas tout à fait la même affaire. Et donc, la volonté des non-élus est qu'il crée, autrement dit, on ne peut pas dire que Dieu crée le mal dans le cœur des non-élus, de manière à les détruire éternellement par la suite. C'est une accusation que certains opposants à la doctrine de la souveraineté divine et de la théologie réformée formulent. Il y en a qui disent ça. Quand, si vous vous mettez à lire des livres de théologie, vous allez voir que ce n'est pas un combat qui est d'hier. Autrement dit, ça a toujours fait des interprétations différentes parce que ce n'est pas agréable au cœur humain de se faire dire que c'est Dieu qui choisit. L'être humain, il veut que ce soit lui qui décide de sa destinée éternelle. Il n'aime pas ça se faire dire que c'est Dieu qui a décidé, qui l'a décidé. Il n'aime pas ça du tout. Et à quelque part, il s'est bâti un paquet de livres, un paquet d'enseignements, un paquet de renseignements au cours de l'histoire. Alors, il y a eu les fausses interprétations par rapport au salut. C'est surtout l'hyper-calvinisme en disant que Dieu a décidé pour certains hommes que moi, je t'envoie en enfer puis que tu n'as rien à faire, tu ne pourras pas y aller. Et il y a l'arminianisme. L'arminianisme, bien là, on sait, c'est là, ne faites pas rentrer dans ça ce matin, c'est un gros sujet. Autrement dit, les deux grandes erreurs principales par rapport à une doctrine du salut qui est orthodoxe, qui est correcte. Un, les hyper-calvinistes, l'autre, les arminiens. Alors, on se doit de fortement s'opposer et de résister à l'interprétation, soit des arminiens ou soit des hyper-calvinistes. Alors, le décret positif, c'est dans le décret de la prédestination à la vie éternelle, Dieu intervient actif. Pourquoi on l'appelle le décret actif? Parce que Dieu, dans le décret de la prédestination à la vie éternelle, Dieu intervient activement en créant la foi dans le cœur des élus. Cette intervention de Dieu apporte les résultats suivants. Un désir et une capacité de se tourner et venir à Christ pour le salut. Aucune violence n'est faite à leur volonté. Ils choisissent volontairement, à cause de la foi que Dieu a déposée dans leur cœur, de que maintenant leur nouveau cœur désire. Décret négatif. Dans le décret de la réprobation éternelle, autrement dit, certains hommes n'iront pas au ciel, Dieu n'intervient pas pour changer leur cœur. Ceci ne fait pas violence à leur volonté. Dieu ne crée pas en eux la foi qui sauve. Ainsi, leur cœur n'est pas réorienté vers le Christ pour le salut. Ils sont laissés à leur désir et à leur amour du péché. Ils ne désirent pas choisir Christ et sont incapables de le faire parce que cela est contraire à leur amour du péché. Ceux qui ne sont pas des élus ne veulent pas abandonner leur péché et sont ainsi condamnés à subir le châtiment qui s'ensuit. De cette façon, Dieu n'est ni l'auteur du péché, ni ne fait violence à la volonté de sa créature. Les non-élus aiment plus leur péché que Dieu. Alors, la doctrine de ce qu'on appelle la double prédestination est biblique si nous tenons compte des distinctions qu'on vient d'établir là. Des fois, ils ont dit, ah, tu as une double prédestination. Oui, mais si tu tiens compte de ce qu'on vient de dire là. Alors, on se doit de remercier le Seigneur d'avoir fait miséricorde à certains hommes concernant leur destinée éternelle, alors que tous, sans exception, méritaient l'enfer. On la méritait toutes, ceux qui sont ici ce matin, là. Si Dieu nous aurait laissé aller à nos péchés, on serait allé en enfer, toute la gang. Donc, aucun ne peut contester les voies de Dieu et son décret. Nous ne pouvons qu'admirer ces voies mystérieuses dans la crainte et la terreur. Apocalypse 4, verset 11, c'est le dernier verset. Ça dit, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Trois applications du texte d'aujourd'hui, cette brève étude. Admirons la grande sagesse de Dieu et son absolue souveraineté dans tout l'univers et particulièrement dans l'attribution du salut des hommes en particulier. Rendons-lui grâce pour la manifestation de sa grâce dans la destination éternelle des élus pour la vie éternelle. Deuxième application, rendons gloire aussi à Dieu pour la manifestation glorieuse de sa justice dans la réprobation éternelle des non-élus qui ont préféré leur péché à Dieu. Troisièmement, voyons aussi la bonté infinie de Dieu d'avoir élu et aussi prédestiné des anges à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, on fait plus que regarder juste du côté humain, on regarde du côté de l'ensemble de la création divine. Dieu a choisi certains hommes qui recevraient sa grâce et Dieu a permis, a voulu que certains anges ne tombent pas dans le péché en suivant Satan. Alors que notre grand et glorieux Dieu soit béni, loué et adoré, ainsi que notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Amen.